Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. En avril prochain, à 82 ans, le président Abdelaziz Bouteflika, pourtant malade et affaibli, devrait briguer un cinquième mandat. 30 ans après les émeutes d'Alger et le premier des printemps arabes, le pouvoir reste opaque en Algérie. Qui gouverne réellement? Comment interpréter les mises à la retraite forcées, les limogeages au sein de l'armée et la reprise en main des services de sécurité? Le pluralisme démocratique est-il menacé? Avec une rente pétrolière qui s'épuise, un scénario à la vénézuélienne est-il envisageable? On en débat avec nos invités. Myriam Aïtaoudia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Flavien Bourra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur sur le Maghreb et le Moyen-Orient à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Et Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE, l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Ma première question est peut-être un peu brutale, Kader Abderrahim, mais faudra-t-il attendre la mort d'Abdelaziz Bouteflika pour que l'Algérie sorte de l'immobilisme?
Je crois que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est la nature du système et que ça n'est pas lié à une personne et que les systèmes sont toujours plus forts que les individus. Et donc Bouteflika, mort ou vivant, on lui souhaite plutôt de rester vivant longtemps encore, ne changera rien du tout. Et que dans cet entre-là que constitue aujourd'hui l'opacité du régime algérien, il y a d'abord des rivalités exacerbées, probablement aussi des intérêts qui sont de plus divergents et qui donc qui s'exacerbent à travers ces divergences et qu'on voit s'exprimer de manière extrêmement brutale et violente depuis le début de l'été 2018. Et que quelle que soit la personne qui est aux affaires en Algérie, c'est d'abord la pérennité du système qui est la priorité absolue de tous ceux qui le servent.
Myriam Aïtaoudia, le changement ne pourra pas venir des urnes en avril prochain? La présidentielle est jouée d'avance, d'après vous?
Je ne crois pas, dans la mesure où rien n'est sûr à propos du cinquième mandat. On ne peut pas affirmer aujourd'hui que le président actuel, Abdelaziz Bouteflika, se représentera. Ce pour plusieurs raisons, évidemment son état de santé. Et je pense que vous avez vu, ou les auditeurs ont peut-être vu, les images du président lors de la cérémonie du 1er novembre dernier. Elles ont été très surprenantes dans la mesure où, pour la première fois, me semble-t-il, la caméra de la télévision publique a zoomé sur le président. Habituellement, il est filmé de loin et on a vu, tout le monde a pu voir son état de santé extrêmement, extrêmement dégradé. Peut-être est-ce un signe du fait qu'il n'est pas en mesure de se représenter. Et deuxièmement, il y a un problème de droit, puisque la Constitution de 2016 a inscrit dans ses dispositifs l'interdiction à limiter les mandats à deux. Donc les interprétations divergent, mais certains juristes considèrent qu'il ne serait pas en mesure de se présenter à un cinquième mandat du fait de ces dispositions constitutionnelles. Je ne crois pas que le droit empêchera le président néanmoins de se représenter.
Oui, parce que le porte-parole de la présidence a annoncé l'intention de l'actuel président de briguer un nouveau mandat.
Officiellement, il n'est pas candidat.
Ses
soutiens, le FLN, le RND et le MPA, l'appellent à se présenter. Néanmoins, officiellement,
On attend la confirmation,
ça c'est extrêmement important.
Aux dernières législatives, l'an dernier, remportées par le FLN et son allié le RND, il y a eu seulement 35% de participation. Comment vous expliquez cette désaffection des Algériens pour les urnes, Kader?
Écoutez, quand on voit la situation, quand on voit à quel point l'expression populaire est si peu prise en compte, on ne voit pas très bien pourquoi les Algériens se mobiliseraient. Et puis, quand on fait de la politique et qu'on est un citoyen qui souhaite participer à la vie de son pays, on se détermine d'abord sur des projets, sur des idées. Or, en Algérie, il y a fort longtemps, au moins depuis 1992, qu'il n'y a plus eu d'affrontement projet-projet ou débat d'idées. Aujourd'hui, on est vraiment dans la lutte de ceux qui sont en place et qui veulent s'y maintenir. Et face à eux, ceux qui veulent avoir la place et qui sont prêts à tout pour cela. Et donc, au milieu, il y a 40 millions d'Algériens qui sont pris en otage, littéralement, et qui, évidemment, se sentent assez peu concernés, c'est une litote, par les débats aujourd'hui en cours. Et quand je dis débat, là aussi, c'est encore une litote.
Alors, le désenchantement des Algériens donc ne date pas d'hier. Pourquoi est-ce que la vague de contestation qui a balayé le monde arabe en 2011, de la Tunisie à l'Égypte, en passant par la Syrie, la Libye, n'a pas touché l'Algérie? Flavien Bourra.
Alors, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées, et je crois qu'ils sont toutes pertinentes. Alors, l'une, c'est évidemment le souvenir de la guerre civile, qui a beaucoup marqué les esprits au-delà même. causer un traumatisme. Donc je pense que la population algérienne ne souhaite pas en aucun cas, en plus de ça, au regard de ce à quoi elle assiste en Libye ou plus loin en Syrie ou au Yémen, se retrouver dans une configuration de guerre civile, d'affrontement et de violence extrême. Bon, l'autre raison, c'est que le système algérien, je crois qu'on peut le désigner comme tel, fonctionne sur le principe de la redistribution de la rente pétrolière et gazière. Alors c'est un mode de légitimisation et disons de stabilisation du pays qui fonctionne depuis très longtemps, hein, mis un petit peu en péril hein, par le caractère volatile du cours des cours du gaz et du pétrole. Donc c'est une rente sur laquelle disons le système ne pourra pas peut-être indéfiniment se reposer. Néanmoins, il y a ces formes de redistribution que certains parlent même d'une forme de corruption d'État hein, qui permet au fond, le mot est peut-être un peu brutal, d'acheter la population, mais en tout cas d'acheter une forme de paix sociale en dépit de jacquerie, hein, de forme de contestation localisée et d'ailleurs dépolitisée auxquelles on assiste depuis de nombreuses années. Il y a un troisième point aussi qu'il faut souligner, c'est que dans un contexte sécuritaire qui est un contexte sécuritaire troublé, hein, régional, découlant des soulèvements arabes, notamment de la crise libyenne, aussi les problèmes qu'il y a plus au sud, dans ce qu'on appelle la zone saharo-sahélienne, la population algérienne considère que le système, dans toutes ses composantes, hein, à la fois militaro-sécuritaire, aussi présidentielle et politique, continue à assumer à minima une forme de sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'on a assisté à une très forte diminution hein, de la menace djihadiste sur le territoire algérien. Là aussi, c'est un facteur qui peut expliquer, ce qui n'est pas nécessairement un soutien ouvert, une forme de résignation, mais en tout cas, qui n'est pas de contestation réelle vis-à-vis du pouvoir en place.
Myriam Aïtaoudia, est-ce que vous êtes d'accord avec Flavien Bourrat ? C'est le traumatisme de la guerre civile qui, en premier lieu, empêche les Algériens de descendre dans la rue ?
Alors, il a tout à fait raison. C'est les deux éléments évoqués sont absolument justes, dans la mesure où la guerre civile a duré très longtemps, elle a duré une décennie. Les dégâts matériels, évidemment, sont les moins importants, mais en pertes humaines sont considérables. Et l'Algérie, dans l'imaginaire politique de la population, le souvenir de la guerre, donc première expérience de démocratisation dans le monde arabe et première expérience de terrorisme. L'Algérie a connu les deux, et l'un à la suite de l'autre. Donc on ne peut pas dissocier l'expérience de la violence politique à l'expérience d'un changement de régime en Algérie. D'ailleurs, des leçons ont été tirées de cette expérience. La question de la violence et le fait que le pouvoir joue sur cette peur, comme l'a dit Flavien à très juste titre. Néanmoins, je voudrais ajouter la question des mobilisations. Effectivement, il y a des contestations en Algérie, vous l'avez dit, et elles sont très nombreuses et elles touchent de nombreux secteurs. On observe des grèves et des mobilisations à l'université, dans le secteur médical, dans le secteur de la justice, les cheminots.
Est-ce que c'est davantage en province ou aussi dans les grandes villes?
C'est également dans les grandes villes, mais la particularité de ces mobilisations par rapport à octobre 88, pourquoi octobre 88 a abouti à un changement de régime et pourquoi les mobilisations actuelles n'aboutissent pas à un changement de régime? La réponse est, donc dans mon livre, moi j'ai étudié la mobilisation d'octobre 88 et sa transformation en expérience réellement démocratique. Les émeutes d'octobre 88 ont eu ceci de particulier qu'elles ont été politisées par des groupes, divers groupes qui leur étaient extérieurs, qui n'étaient pas les émeutiers bien sûr, des avocats, des militants islamistes, futurs leaders du FIS, des militants berbéristes, futurs leaders du RCD, des universitaires, etc. Ils ont réussi à politiser les émeutes et à proposer un discours politique unifié de remise en question du parti unique. Aujourd'hui, toutes les tentatives des partis d'opposition d'unifier les mobilisations ou de politiser les mobilisations échouent. La coordination pour le changement en 2011 a totalement échoué. Les manifestations du RCD en 2011 au moment des printemps arabes ont totalement échoué. Donc les mobilisations restent sectorisées et elles ne sont pas politisées. Donc les contestations sociales, oui, mais contestations politiques, non. Et on ne parvient pas à passer de l'un à l'autre.
Kader Abderrahim.
Oui, je suis d'accord globalement avec ce qui vient d'être dit. J'ai peut-être une petite nuance. Je suis pas certain. Évidemment, c'est une douleur qui reste extrêmement prégnante que la décennie noire soit un frein à des mobilisations. Sinon, on n'assisterait pas à tout ce à quoi on assiste depuis des années. Alors, il faut faire juste une petite expérience. C'est aller sur le site de la Gendarmerie nationale algérienne, qui est l'institution qui répertorie les manifestations, les affrontements, les confrontations sociales un peu partout sur le territoire national. Et elles sont extrêmement importantes au quotidien. Alors, évidemment, il n'y a plus de médiateur, comme vient de le dire Myriam, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a plus de parti politique pour porter ces revendications. Et donc, évidemment, on assiste à une confrontation directe entre la société et l'État, ce qui est extrêmement grave, parce que ça peut évidemment déraper à tout moment. Mais je suis toujours un peu sceptique quand on parle de ce qui s'est passé dans les années 90. Encore une fois, la particularité de l'Algérie, c'est d'avoir fait en sorte, d'ailleurs c'était aussi bien les islamistes que de la part du régime, d'avoir fait en sorte que cette guerre, qui était une véritable guerre, mais une guerre contre les civils, pas une guerre civile, que cette guerre soit restée close et un débat national. Et les islamistes eux-mêmes, y compris lorsqu'ils sont passés à la phase terroriste, n'ont jamais voulu internationaliser cette question-là. On n'est pas dans la situation de ce qui se passe, notamment aujourd'hui, au Moyen-Orient ou en Libye. Les débats restent nationaux. Et par conséquent, encore une fois, peut-être cette petite nuance, mais globalement, nous sommes d'accord sur l'analyse.
Flavien Bourrat, est-ce qu'il n'y a pas aussi un chantage à la peur exercé par les officiels qui agitent la menace du scénario syrien ou libyen ?
Oui, bon, il y a toujours évidemment cette tentation. Je ne la perçois pas vraiment, en tout cas dans le discours public. Alors si, ça a été le cas après les attentats du 11 septembre. Très clairement, on a vu là, dans le discours officiel algérien, aussi bien celui qui émanait de la présidence que des milieux sécuritaires, l'idée que l'Algérie avait, au fond, affronté toute seule, en premier, un terrorisme extrêmement organisé et violent, sans d'ailleurs recevoir le soutien de la communauté internationale, il y a eu toute la construction d'un discours. Et que, évidemment, la planète entière était désormais confrontée à cette menace. Donc là, il y a eu effectivement une forme d'instrumentalisation. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit toujours dans ce registre. Au contraire, il me semble que, dans le discours officiel, on met davantage l'accent justement sur les succès obtenus par l'État algérien dans la lutte contre ce qu'il appelle le terrorisme ou le radicalisme, et aussi une manière de mettre en avant l'efficacité des méthodes mises en place par cet État algérien, à la fois l'approche, disons, sécuritaire classique, répressive, mais aussi les politiques de déradicalisation. On entend même certains dire, voilà, l'Algérie a été un peu pionnière, elle a cette expérience avec des résultats, et ça peut servir d'ailleurs de modèle pour d'autres pays. Dans le discours algérien, on dit, la Tunisie d'ailleurs peut s'inspirer de ce qui a été fait en Algérie pour lutter contre le terrorisme ou le radicalisme.
Mais Myriam, est-ce que le pays ne s'inquiète pas, ou le pouvoir en tout cas, des situations extrêmement volatiles justement dans les pays voisins, la Libye en proie au chaos, le Mali en proie au terrorisme, est-ce que ça c'est pas une menace réelle? Kader Abderrahim.
C'est une menace parce qu'évidemment c'est à ses frontières, mais la Libye ça n'a rien à voir quand même. On est là dans le cas d'une situation où c'était une intervention militaire franco-britannique, donc extérieure. L'Algérie, elle n'est pas menacée par cela. En revanche, évidemment, quand on regarde l'environnement stratégique régional, on voit qu'il y a des périls aux frontières. L'Algérie a 1000 km de frontières communes avec la Libye, 2700 km de frontières sur son flanc saharien. C'est colossal. Lorsque vous parlez avec des militaires algériens, ce qui m'est arrivé très récemment, ils vous disent qu'il y a évidemment une impossibilité de contrôler tout. Cette instabilité les inquiète au plus haut point. Donc ils sont devenus, peut-être qu'on leur a un peu forcé la main, mais aussi par nécessité pour préserver leurs intérêts, ils sont devenus alliés et acteurs pour tenter de maintenir ou de contenir cette menace et cette instabilité. C'est vrai, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la question du Sahara, qui n'est pas réglée, qui pèse encore, les bruits de bottes, la dangereuse dégradation des relations avec le Maroc. L'Algérie, c'est le seul pays du Maghreb qui a des frontières communes avec tous les pays du Maghreb. Et maintenant, elle a aussi un problème sur son flanc saharien, ce qui est une très grande nouveauté. Et donc l'Algérie, pour le moment, l'armée a du mal à gérer tout cela concomitamment. Et ce que je trouve inquiétant, c'est la guerre dans laquelle est entré aujourd'hui le système sur le sérail en interne, l'arrestation de 5 généraux qu'on retrouve en prison et qui sont libérés. Et cette manière de déstabiliser une institution qui fonctionnait et qui est absolument fondamentale à la stabilité du pays est quand même assez inquiétante pour des rivalités politiques de pouvoir.
Est-ce que le pouvoir a peur d'une revendication touareg sur le Sahara, par exemple ?
Non, pas en Algérie, mais elle existe ailleurs. On la voit s'exprimer aujourd'hui de plus en plus dans le sud de la Libye, à la frontière avec le Soudan, sur la question Toubou, dans les relations avec le Tchad. Toutes ces questions qui, depuis 40 ans, n'ont jamais été abordées, n'ont jamais été réglées. sur la question saharienne des Touaregs. Évidemment qu'il y a des pans entiers des Touaregs qui ont rompu avec le processus politique, notamment de Niamey ou de Bamako, et qui ont basculé dans le terrorisme, qui ont fait jonction soit avec ACMI, soit avec Boko Haram. Donc tout cela, évidemment, est de nature à inquiéter l'Algérie, et on peut le comprendre.
Oui, Flavien Bourrat.
Oui, peut-être un mot sur la question du sud saharien algérien. La question Touareg, il me semble qu'au fond, on fait moins face à un mouvement, un sentiment irrédentiste de la part de ces populations du sud algérien, mais davantage à une critique, un sentiment de délaissement de la part du nord, avec le phénomène de migratoire qui devient quand même un défi à la fois social et sécuritaire extrêmement important pour les pays du Maghreb, en premier lieu l'Algérie, du fait de ses frontières communes avec les pays du Sahel, et puis aussi ce sentiment justement d'abandon. La question des emplois, des emplois publics, que les populations reprochent au gouvernement algérien de les attribuer à des gens du Nord, pas à eux. Donc, perte au fond, le risque qu'il y a eu, alors qu'il a été apparemment, la situation a été un peu reprise en main au cours des dernières années par les autorités algériennes, le risque de perte d'allégeance de ces populations vis-à-vis du pouvoir central, vis-à-vis d'Alger. Et donc d'allégeance peut-être à d'autres composantes et éventuellement de mouvements djihadistes. Alors on n'en est plus là, apparemment il y a eu quand même une réaction des autorités algériennes, mais c'est, je pense, cette question justement de ce sentiment un peu d'abandon de populations qui sont dans des zones extrêmement enclavées et disons éloignées du centre, du centre du pouvoir et de la redistribution aussi, qui a posé et qui pourrait continuer à poser problème dans les prochaines années.
Et quel écho rencontrent les appels d'ACMI, par exemple, à combattre le régime algérien dans ces zones, justement, où les populations se sentent délaissées par le pouvoir central ?
Numériquement, c'est très difficile à évaluer, mais enfin, on voit bien que pour le moment, c'est pas un mouvement d'ampleur. La majorité des Touaregs, notamment, puisque c'est de ça dont on parle, algériens, sont quand même restés très largement fidèles à leur pays. Il y a un attachement aussi, il y a un enracinement ancien. Alors évidemment, la question est pas réglée. D'ailleurs, elle ne concerne pas seulement l'Algérie aujourd'hui, parce qu'elle est transverse. Et puis, on voit aujourd'hui, au-delà de la question du terrorisme islamiste, une dimension nouvelle qui a été provoquée. En réalité, la guerre en Libye a ouvert une boîte de Pandore extraordinaire et qui, pour les 15 ou 20 ans à venir, va devoir être simplement gérée parce qu'on n'a pas le choix. La dissémination de l'arsenal militaire libyen dans toute cette zone a provoqué une instabilité qui va devenir chronique. Et donc, tous les pays, tous les groupes et tous les États vont devoir gérer cette situation. Et nous, Français, nous le savons très bien, puisque nous avons dû nous engager au Mali, le Mali qui est la conséquence directe de la guerre en Libye. C'est quasiment de la mécanique, je caricature à peine. Donc il y a eu une forme d'inconséquence politique de la part du président Sarkozy et de son entourage à déclencher cette guerre sans avoir bien mesuré quelles pouvaient être les conséquences et pour nous et pour nos partenaires du Sud.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de combattants de Daesh qui ont quitté le Proche-Orient pour rejoindre l'Afrique après la chute du califat ?
Moi, j'ai pas d'éléments là-dessus.
Flavien Bourrat ?
Je pense qu'il faut peut-être pas trop se focaliser sur Daesh ou l'État islamique, qui a eu visiblement de très grandes difficultés pour prendre pied, s'implanter, en tout cas au Maghreb. Alors peut-être un petit peu davantage, ou des mouvements qui lui faisaient allégeance au Sahel, mais au Maghreb, très clairement, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a gardé le leadership. Néanmoins, on s'aperçoit que cette mouvance djihadiste est en voie de, peut-être pas de disparition, mais aussi bien ses effectifs et surtout ses capacités de mobilisation connaissent une phase, disons, de déclin très très forte. Si on prend l'organisation mère d'ACMI, qui est dirigée toujours, d'ailleurs c'est un record par Abdelmalek Toulkdel, depuis 14 ans, on l'estime, alors c'est très difficile, mais tout au plus à une centaine de combattants, qui sont maintenant dans un réduit dans le nord-est de l'Algérie, la presqu'île de Kolo, le massif de l'Edour, légèrement aussi vers la frontière tunisienne, avec quelques éléments qui sont toujours aussi dans la partie boisée, montagneuse, entre l'Algérie et la Tunisie. Mais on voit bien que c'est quelque chose qu'on peut vraiment qualifier maintenant de résiduel. Là où il reste encore des effectifs relativement plus conséquents, c'est dans la zone saharo-sahélienne. Mais là, on sort au fond de l'espace national du territoire algérien.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de l'Algérie à l'approche de la présidentielle.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. En octobre 88, la mobilisation populaire avait contraint le régime algérien à accepter le pluralisme politique. 30 ans après, l'Algérie a un président de 81 ans, affaibli et malade, Abdelaziz Bouteflika, qui s'apprête à briguer en avril prochain sans doute un cinquième mandat de 5 ans. Pourquoi cet immobilisme? L'ouverture est-elle impossible dans ce pays resté à l'abri des révoltes arabes de 2011? On continue d'en débattre avec Myriam Haït Aoudia, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, Flavien Bourra, chercheur sur le Maghreb et le Moyen-Orient à l'IRSEM, et Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po et directeur de recherche à l'IPSE, l'Institut Prospective Sécurité en Europe. On a beaucoup parlé ces derniers mois du recadrage des militaires, du ménage à la tête de l'armée et de la reprise en main des services. Flavien Bourra, est-ce que le changement a commencé avec l'éviction en 2015 du général Taoufik, le patron tout-puissant du DRS, le département de renseignement et de sécurité?
Non, ce réaménagement a commencé auparavant, dès 2004, avec la réélection de Abdelaziz Bouteflika, et qui procède au fond à une forme de retrait du haut commandement militaire, de la gestion des affaires politiques. Alors, on sort d'un cycle qui a été celui de la crise née des émeutes de 88 et surtout de la guerre civile, où l'armée, effectivement, occupait une place de premier plan. Néanmoins, après 2004, le département du renseignement et de la sécurité, le DRS, avec à sa tête le général Médienne, continue à conserver, disons, un ascendant, une influence extrêmement puissante au sein du pouvoir algérien, et plus ou moins une forme de consensus avec la présidence. Et puis, effectivement, il y a le départ en retraite du général Médienne qui constitue un tournant. Je pense que ça marque la sortie du cycle des années 90 et des années 2000. Et il y a une volonté, effectivement, de reprise en main, qui avait été exprimée, d'ailleurs, peut-être par Abdelaziz Bouteflika dès son accession à la présidence en 99, au fond, d'avoir un appareil militaro-sécuritaire qui lui soit subordonné, qui n'est plus cette forme d'autonomie, notamment, qu'avait pu avoir le DRS. Alors, c'est un fait sur le plan politique. Néanmoins, je pense que cela ne modifie pas en profondeur le mode de fonctionnement et les attributions aussi bien de l'armée que du DRS, qui s'appelle maintenant le DSS, département de la surveillance et de la sécurité. Il y a néanmoins ce limogeage sans précédent, je crois, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, de hauts responsables militaires et sécuritaires
qui s'est produit
à la fin de l'été,
après la saisie le 29 mai en rade d'Oran d'une cargaison de 700 kilos de cocaïne. C'est ce qui a tout déclenché.
Voilà. Alors, est-ce que c'est le déclencheur? Est-ce que c'est un prétexte? C'est difficile à dire. Pour ma part, moi, je vois aussi peut-être une volonté de rajeunir l'ensemble des hauts responsables qui touchent aussi bien la police, l'armée, la gendarmerie, dans la perspective de la succession de l'actuel président. Là aussi, on voit bien qu'on est à un vrai tournant. Le prochain exécutif sera dirigé par quelqu'un qui n'a pas connu, qui n'a pas fait la guerre d'indépendance. Alors la guerre d'indépendance, c'est quand même l'outil de légitimisation principale, je dirais même exclusif, de l'Algérie depuis 1962. Donc tout cela va induire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une volonté de rajeunir et de changer l'ensemble de la hiérarchie militaire et sécuritaire? Dans cette perspective, c'est probable. Peut-être aussi, il y a un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. L'Algérie fait face à de nouveaux défis sécuritaires multiples, peut-être plus mouvant, donc aussi peut-être la nécessité d'une adaptation, peut-être avec de nouveaux cas, de nouvelles mentalités, de nouvelles visions. Mais là-dessus, c'est évidemment très difficile de donner une explication unique.
Myriam Haït Aoudia.
Oui, aujourd'hui, les changements à la tête de l'armée sont visibles. Ils sont débattus sur la place publique, ils sont parfois contestés. Ils sont le signe, pour certains, de la crise de l'État. Néanmoins, je voudrais une fois de plus revenir dans les années 80. L'Algérie a connu une restructuration de l'armée extrêmement importante qui a bouleversé l'organisation de l'armée et son rapport à la politique. Et à cette époque, les changements ont été discrets. Il y a eu des remaniements extrêmement importants dans l'armée à partir de 1984. Le grade de général a été créé, ont été créés les corps d'armée, terre, mer, etc. Et ça a amené une nouvelle génération d'officiers à la tête de la hiérarchie militaire, beaucoup plus jeunes, formés dans les écoles militaires, ce qui n'était pas du tout le cas de la précédente génération d'officiers, qui ne cumulaient pas des positions militaires avec des positions politiques, par exemple membres du bureau politique, etc., membres du comité central ou même membres du gouvernement. Et ça structure de façon extrêmement forte le rapport entre armée et politique. Et la différence qui, je pense, est très intéressante entre les modifications au sein de les changements considérables au sein de la hiérarchie militaire au milieu des années 80, qui ont fortement pesé sur le processus, sur la possibilité même du processus de démocratisation en 1989. D'ailleurs, l'armée s'est retirée de ses fonctions politiques en 1989. C'était inédit depuis l'indépendance. C'est le fait qu'aujourd'hui, les limogeages sont visibles, ils sont publics, et qu'à l'époque, ils étaient discrets et gérés en interne. Donc peut-être la question, c'est pourquoi on ne parvient plus en Algérie à gérer les conflits ou les transformations plus discrètement, et ce qui était le cas dans les périodes précédentes.
Kader Abderrahim, comment vous interprétez-vous ce coup de balai parmi les généraux? Il faut dire quand même, 5 généraux ont été arrêtés, donc du jamais vu en Algérie, avant d'être remis en liberté sur ordre du président Bouteflika, même s'il reste poursuivi.
Oui, alors c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vient de dire Myriam. Ça se fait sans doute de manière plus spectaculaire aujourd'hui, mais d'abord c'est l'époque, hein, je pense. Mais ça change rien sur le fond. On ne sait rien. On ne sait rien. 5 généraux sont arrêtés. Ils sont mis
pour enrichissement illicite et abus de pouvoir.
Nous dit-on à la prison militaire de Blida, puis ils comparaissent en pleine nuit à 1h du matin devant un juge, et puis au bout d'une semaine on les relâche. Donc on se dit mais pourquoi? Comment? Elle est où la justice? Quelles sont les véritables raisons qui conduisent à cela? Donc je pense que ça provoque aussi à la fois de l'instabilité et puis une insécurisation sur le plan institutionnel. C'est peut-être ça qui, de mon point de vue, est le plus important aujourd'hui. Cette incapacité aujourd'hui à pouvoir débattre. L'armée algérienne, en réalité, depuis son indépendance jusqu'à 1992, moment du coup d'État, était la seule institution dans laquelle il y avait de véritables débats. Véritable débat sur les grandes orientations et les stratégies que devait adopter le pays. Il y a eu une rupture à partir de 1992 et toute la décennie, puisque l'armée a été impliquée très directement.
En 92, et il faut rappeler, hein, donc
l'arrêt du processus électoral.
Voilà, après la victoire du FIS au premier tour des législatives.
Et le départ du président Chedli Benjdid. Et puis, l'armée reste, elle aussi, un peu comme la société, très marquée par ce qui s'est passé dans les années 90, cette guerre terrible. Et je pense aujourd'hui que l'institution militaire, aujourd'hui, elle est en train, finalement, et peut-être que c'est sans doute une bonne chose, de se banaliser. À la fois dans la manière dont ses cadres sont formés, dans la place qu'elle est en train de chercher dans les institutions, et enfin, dans la perception qu'elle a de sa société. Alors, ce qu'a dit Flavien Bourrat tout à l'heure est intéressant, parce que on est passé du département renseignement sécurité, le DRS, au DSS, département surveillance et sécurité. Surveillance. On en est encore à la perception un peu soviétique et stalinienne de la société. C'est-à-dire que ce pays, cette population est un magma qui est une menace pour ce régime. Et probablement qu'ils ont raison de les percevoir comme une menace, parce qu'évidemment, on n'est ni dans une démocratie et encore moins dans un état de droit.
Et si on pose la question, qui est à la manœuvre? On parle par exemple du chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah. Ça vous paraît plausible, Kader?
Il est l'un des acteurs, mais je pense que les choses sont compliquées aujourd'hui. L'instabilité provoquée par la maladie du président a ouvert la porte à beaucoup d'ambitions, que ce soit dans l'armée, ou à quelques ambitions, on va être plus modeste, dans l'armée ou dans les institutions civiles. Hein, on peut vite parler de Gaïd Salah, de l'actuel Premier ministre Ouyahia, peut-être 2 ou 3. Et d'un ou deux qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est très difficile de nommer et de dire précisément celui-là, etc. Mais en tout cas, il est clair que le chef d'état-major des armées aujourd'hui est l'homme fort. Je crois que ça marque aussi un retour de l'armée dans les affaires publiques. Les 10 dernières années, en réalité, il y avait une oligarchie des affaires qui avait émergé et qui est devenue extrêmement puissante compte tenu des masses financières qu'elle a pu accumuler.
Et on en revient à la corruption.
Oui, on en revient toujours à la corruption et à l'argent de la rente pétrolière notamment et gazière.
Flavien Bourrat. Oui,
juste un mot. Bon, l'actuel chef d'état-major des armées, bon, c'est un militaire qui est âgé. Hein. C'est quelqu'un de relativement consensuel. C'est un ancien maquisard. Alors, il était effectivement quelqu'un qui a toujours été assez proche, je pense, du président Bouteflika. Mais au fond, comme le dit très bien Kader Abderrahim, ça n'est peut-être pas l'essentiel. Peut-être un point qu'il faut souligner, parce qu'on entend souvent dire que il y aurait cette volonté peut-être au sein des militaires algériens de reprendre en main le pouvoir, etc. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que ce retrait de l'armée algérienne en dehors de la vie politique est quelque chose d'acté. Le commandement militaire de l'ANP aurait beaucoup à perdre hein, de se réinvestir dans la gestion des affaires politiques. Et je pense qu'elle ne le souhaite pas. Néanmoins, elle reste quand même la gardienne d'un certain nombre de lignes rouges, hein, de valeurs, qui concernent aussi bien la politique extérieure de l'Algérie, hein, son influence régionale, qu'un certain nombre de paramètres de politique intérieure. Mais pour autant, cela ne signifie pas une volonté de se réinvestir hein, dans ce champ politique.
Alors, est-ce que ça pourrait marquer le début d'une volonté de lutter contre la corruption, Kader Abderrahim?
Vous savez, la corruption, c'est un peu comme le cancer. On voit quand ça commence, on maîtrise plus sa propagation. Et aujourd'hui, les niveaux de corruption en Algérie sont atteint des sommets jamais vus parce qu'elle n'est plus maîtrisée, mais c'est à l'image de tout le reste. Encore une fois, le retrait en raison de sa maladie du président Bouteflika a laissé un champ immense à toutes sortes d'ambitions et de rapacité qui s'exprime aujourd'hui.
Mais qui se sert aujourd'hui? Est-ce que c'est les proches du président?
Tout
Est-ce
le
que
monde.
C'est
Myriam? La lutte contre la corruption n'est pas nouvelle, en tout cas affichée. Ça a déjà été le cas il y a quelques années. On se souvient de la fameuse affaire des cadres qui ont été arrêtés. En 94, au milieu des années 90, des centaines de cadres ont été arrêtés, des cadres de la fonction publique. Aujourd'hui, des généraux sont accusés. Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit. La corruption est extrêmement large et ponctuellement, le pouvoir exécutif annonce lutter contre la corruption. Est-ce une manière de gérer des conflits qu'il ne parvient pas à gérer autrement? C'est une hypothèse. Des conflits politiques qu'il ne parvient pas à gérer autrement, c'est une hypothèse. Mais il est très important d'insister sur le fait qu'on ne peut pas répondre à la question qui gouverne, disons, en identifiant un groupe extrêmement précis de personnes. Puisque tout ce qu'on observe dans la vie politique aujourd'hui en Algérie montre la fluctuation des rapports de force. Montre qu'un groupe peut être dominant à un moment et perd en force de sa force dans les semaines, les mois ou les années qui suivent. Et je pense que les derniers épisodes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou les conflits entre le ministère de la Justice et le Premier ministre, etc., nous montrent la fébrilité et l'incapacité de gérer en interne des conflits qui sont pourtant extrêmement importants.
Si j'en viens à la presse, une vingtaine de sites algériens d'information ont dénoncé il y a 3 semaines une campagne de criminalisation de la presse électronique après l'arrestation de plusieurs de leurs journalistes. Un fixeur qui travaillait pour la BBC et le Washington Post notamment a été condamné à 16 mois de prison ferme pour intelligence avec une puissance étrangère. Est-ce que ça témoigne, ça aussi, d'une certaine fébrilité du pouvoir, Kader?
Quand on s'en prend à la presse qui, en Algérie, avait très tôt, en tout cas depuis 1988, acquis des espaces de liberté, évidemment, c'est qu'on est fébrile. Mais pour autant, je crois que ce qui est arraché dans les têtes reste très, très vivace, très présent. Et les journalistes algériens, comme d'autres ailleurs dans le monde arabe, ont acquis cet espace de liberté et ne sont pas prêts d'y renoncer. Donc ils se battent, mais en même temps, c'est aussi l'expression de la part du régime d'une certaine inquiétude sur la liberté de ton. Et aujourd'hui, avec Internet, on ne contrôle plus. C'est terminé l'époque où on pouvait interdire à l'imprimerie et jeter au pilon des journaux. Tout ça est terminé parce qu'aujourd'hui, un post sur Facebook ou un tweet est aussi dévastateur qu'un éditorial. Alors on peut tenter d'exercer des pressions sur les esprits pour que les gens retiennent leurs plumes, mais pour autant, on ne contrôlera plus aujourd'hui l'espace d'expression publique.
Et le frère du président Abdelaziz Bouteflika, donc son frère Saïd, on parle de lui comme de l'homme fort du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui qui, en coulisses, prendrait les décisions? Qui veut répondre?
Alors là aussi, je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur des personnes, hein, des focalisations sur des individualités. On ne sait pas exactement est-ce qu'il y a un dauphin à l'actuel président. Alors depuis longtemps, on cite quand même souvent le nom de Ahmed Ouyahia, Premier ministre. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments hein, qui sembleraient corroborer cette hypothèse. Hein. D'autant qu'on le dit aussi depuis longtemps, il a le soutien de l'appareil sécuritaire, ce qui reste quand même quelque chose d'important. Néanmoins, je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle le clan Bouteflika survive nécessairement à la disparition de l'actuel président. Vous savez, l'idée de dynastie héréditaire, en dehors des monarchies, quelque chose qui est très très mal perçu, je crois, dans le monde arabe, qui a probablement été aussi à l'origine d'un certain nombre de soulèvements. Je doute fort qu'en Algérie, et pas seulement, je ne parle pas de l'opinion, hein, mais le reste de l'appareil d'État, on souhaiterait voir, au fond, un proche de l'actuel président lui succéder.
Vous êtes d'accord, Kader?
Oui, ça, je crois pas. J'ai beaucoup de mal à imaginer, même si on sait pas quel est exactement son rôle. C'est clair qu'il est influent. C'est clair que c'est celui qui a accès à son président de frère au quotidien et à longueur de journée. Pour autant, je crois pas du tout à une succession dynastique. Non, ça paraît totalement inenvisageable quand on connaît un peu à la fois la nature du régime, mais en même temps les sentiments profonds des Algériens.
Myriam.
Et le fait que depuis l'indépendance du pays, la question ne se soit jamais posée et qu'on se la pose pour la première fois aujourd'hui, une fois encore, est un phénomène extrêmement intéressant. Puisque si on observe les successions des présidents, qu'ils aient démissionné, qu'ils soient tombés suite à un coup d'État, qu'ils soient décédés de maladie, toutes les situations depuis 62, la succession a été très rapidement réglée. Aujourd'hui, le fait même qu'on se pose la question, et le fait même que, donc, il y a l'hypothèse où Yahya, effectivement, qui est une des hypothèses, pose le fait qu'il y a une certaine fébrilité, une transformation du jeu. Et je voudrais ajouter, ça a été dit par Flavien en début d'émission, la question de l'âge et la question de la légitimité révolutionnaire. Qui, aujourd'hui, peut se prévaloir d'avoir fait la guerre d'indépendance? Donc, pour choisir le successeur de Bouteflika, il faudrait inventer de nouveaux modes de légitimation politique, à moins de choisir un successeur qui ait le même âge, puisque la nature est ainsi faite que plus les années passent, plus la guerre d'indépendance recule dans le temps. Donc les révolutionnaires, ceux qui ont participé à la guerre d'indépendance, sont effectivement très vieillissants.
Lakhdar Ibrahimi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, aurait ses chances?
Il est très difficile de répondre à votre question, du fait même que... Les hypothèses sont très ouvertes à cause de cette question de la légitimité et parce que, pour la première fois, il n'y a pas de consensus, me semble-t-il, si le président Bouteflika ne se présente pas sur son successeur. Ce qui montre bien que le jeu est probablement plus ouvert qu'on le dit.
Alors Myriam, tout à l'heure, vous faisiez allusion à l'épisode de l'Assemblée nationale, cet épisode un peu rocambolesque, quand le président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja, s'est vu empêcher au sens propre, hein, puisque la porte a été verrouillée par les députés de son propre parti, le FLN, d'entrer dans le bâtiment avant d'être éjecté de son poste. Là aussi, c'est du jamais vu. Comment vous interprétez cet épisode, Myriam?
Alors, il y a deux éléments intéressants dans cet épisode. Effectivement, vous l'avez dit, c'est très important d'y insister, c'est inédit, le fait de se débarrasser d'un éventuel opposant de cette façon, de façon si spectaculaire et si pathétique, puisqu'ils se sont tous ridiculisés suite à cet épisode. Si j'ai bien compris cette affaire extrêmement compliquée, le point de départ n'était pas un contentieux politique, le point de départ apparent, mais était une tentative de Bouhadja de rationaliser la gestion financière du Parlement lorsqu'il a découvert...
De lutter
que...
contre les privilèges.
Exactement. On en revient à la question de la corruption. Lorsqu'il a... Il a voulu éjecter le très puissant secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui est apparemment inamovible et qui gérait des prébendes, le fait que certains députés aient des dizaines de voitures, que certains députés aient des dizaines d'assistants parlementaires, etc. Et peut-être que cette affaire est seulement liée, semble-t-il, à une question d'argent. Et le deuxième élément intéressant dans cette affaire, me semble-t-il, c'est, encore une fois, je reviens à la question de la légitimité, c'est l'âge. Bouchareb, son remplaçant, a moins de 50 ans, c'est extrêmement important. Donc peut-être que c'est le début d'un renouvellement générationnel et d'une transformation des modes de légitimation un peu chaotique du personnel politique. Et d'ailleurs, Ould Abbas, le secrétaire général du FLN, qui a le même âge que le président de Bouteflika,
83
ans, qui est parti dans des conditions aussi complètement...
Pour raison de santé, officiellement.
Mais farfelu, il a annoncé son départ, ensuite il a annoncé qu'il revenait, etc. Et remplacé par le même Bouchareb. Ça veut dire qu'on n'a pas deux jeunes en Algérie, on n'aurait qu'un. Donc lorsqu'on veut remplacer le président de l'Assemblée nationale, on choisit la même personne que lorsqu'on veut remplacer le président du FLN. Donc il y a une question de renouvellement ici très intéressante, me semble-t-il.
Et encore beaucoup de points d'interrogation, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po, vous venez de publier Géopolitique du Maroc aux éditions Bibliomonde. Myriam Aitaoudia, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Vous avez publié L'expérience démocratique en Algérie 1988-1992 aux presses de Sciences Po en 2015. Et puis merci également à vous, Flavien Bourra, chercheur sur le Maghreb et le Moyen-Orient à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Myriam et Flavien, je renvoie à vos contributions dans le dernier numéro de la revue trimestrielle Moyen-Orient, consacré à l'Algérie, un régime en panne, une société en éveil. Merci également à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Tania Tsikounas et Véronique Durand qui m'ont aidé à la préparer.